France Info, 10h midi, Thomas Séché.
À suivre ce chiffre, près de 5000 lits d'hospitalisation supprimés l'année dernière en France. Explication après le fil info de 10h45, Maureen Suignard.
Une large partie de la province de Castellón au nord de Valence, placée en alerte rouge aux fortes pluies aujourd'hui. Et cela alors que les secours s'activent déjà pour tenter de retrouver de nombreux disparus dans la région espagnole. Des recherches après les pluies torrentielles et les inondations monstres, on compte déjà 95 morts. 30 tonnes d'aide humanitaire vont être envoyées aujourd'hui au Liban. Le pays et les habitants touchés par les frappes israéliennes, l'État hébreu divisé, le Hezbollah, l'armée israélienne qui lance d'ailleurs un nouvel appel à évacuer pour plusieurs villages du sud Liban ce matin. Un appel qui précède généralement de nouvelles frappes. La facture d'électricité va baisser de 9% pour 80% des Français dès demain, soutient la ministre déléguée à l'énergie. La ministre précise que cette baisse touchera les personnes dont le contrat d'électricité se base sur le tarif réglementé de vente, régulé. Cela représente une baisse de 30 euros sur une facture de 300 au départ. Bernard Palot, 78 ans, vient d'être acquitté pour l'assassinat de son épouse Suzanne, malade. Il dit l'avoir tuée pour abréger ses souffrances. Une nouvelle loi éviterait de nombreuses situations comme celle-ci, dit sur France Info le député Olivier Falorni, à l'origine d'une proposition de loi sur la fin de vie. Il demande au gouvernement de mettre son texte à l'agenda pour qu'il puisse être voté rapidement. Donald Trump au volant d'un camion poubelle alors que l'élection présidentielle américaine se déroule mardi prochain. Le candidat républicain se met en scène après ses propos du président Joe Biden qui a créé la polémique. Il a qualifié d'ordure les partisans du milliardaire. La Maison Blanche tente depuis d'éteindre l'incendie.
Le gouvernement n'a donc pas réussi à inverser la tendance alors qu'il promettait d'en finir avec les fermetures de lits. Une étude de la DRES, la direction statistique des ministères sociaux, vient confirmer la baisse continue de l'offre de soins. Sur l'ensemble de l'année 2023, près de 5000 lits d'hospitalisation complète ont été supprimés et ça confirme une tendance à la baisse, Laurine Benjebria.
En 10 ans, plus de 43 000 lits ont été supprimés. Pourtant, l'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, avait promis l'an dernier de rouvrir des milliers de lits en assurant que ces fermetures étaient dues au manque d'attractivité des métiers de soins. Sauf que la pénurie de personnel n'explique pas toutes ces suppressions. Il y a aussi la réorganisation de l'offre qui privilégie l'ambulatoire, c'est-à-dire quand un patient reçoit ses soins en journée à l'hôpital et rentre ensuite chez lui. Preuve en est, 21 000 places de jour ont été créées depuis 2013. La prise en charge à domicile augmente, elle aussi, plus 4% en un an. Mais ça ne suffit pas à compenser le recul de la capacité d'hospitalisation plus rapide qu'avant la crise sanitaire. En plein débat parlementaire sur le budget, les syndicats craignent une dégradation de la situation. Ils jugent la hausse des dépenses insuffisante face aux besoins.
Laurine Benjebria et l'intersyndicale des professionnels de santé a déposé un préavis de grève nationale reconductible à partir du 4 novembre, la semaine prochaine. Bonjour Frédéric Bizard.
Bonjour.
Professeur d'économie à l'ESCP Business School, président fondateur de l'Institut Santé. D'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, rappelez-nous la différence entre ces lits d'hospitalisation complète qui ferment depuis des années et des places qui augmentent dans le même temps. Qu'est-ce que ça implique concrètement ?
C'est très simple. Les lits d'hospitalisation complète, comme le nom le laisse entendre, ce sont des lits dans lesquels vous passez la nuit et les places sont des lits dans lesquels vous restez moins de 12 heures, c'est-à-dire que vous ne passez pas de nuit à l'hôpital.
Donc ce qui compte, ce sont les lits d'hospitalisation pour une meilleure prise en charge.
Oui, alors, pas vraiment. Vous voyez, la façon avec laquelle on présente les choses est importante. C'est-à-dire que, à entendre très souvent les commentateurs, on pense que les politiques ne tiennent pas leurs promesses parce que pour sauver l'hôpital, en particulier l'hôpital public, il faudrait relancer l'investissement dans le nombre de lits. Mais au 21e siècle, la force d'un hôpital ne se mesure plus en nombre de lits. Ça a été très bien expliqué par votre consoeur. Pourquoi ? C'est un progrès parce qu'il y a des progrès technologiques médicaux, parce qu'il y a des innovations médicamenteuses qui font que qu'on arrive à vous soigner plus rapidement et mieux dans moins de temps et donc vous passez moins de temps à l'hôpital. La durée de séjour à l'hôpital n'a cessé de baisser, elle est environ de 5,6 dans le court séjour en France, contre d'ailleurs, on n'est pas extrêmement bien classé dans l'OCDE là-dessus, mais bref, elle ne cesse de baisser. C'est le sens de l'histoire. D'accord ? On a réduit à peu près de 4000 lits depuis 10 ans. Par lui, on est à 370 000 lits. Ça fait à peu près 5,5 pour 100 000 habitants contre moins de 4 dans les autres pays de l'OCDE. La France ne manque pas de lits.
Maintenant, donc vous dites que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle.
Non, si. La question, c'est que c'est une bonne. Ça aurait été une bonne nouvelle si on avait adapté l'outil hospitalier, en particulier l'outil hospitalier public, en conséquence. Parce qu'il est indéniable, et les syndicats le rappellent, que si on regarde depuis 10 ans, vous avez un hôpital public qui s'enfonce dans un problème d'attractivité en ressources humaines, dans un problème d'équilibre des comptes publics. L'hôpital public n'a jamais été autant déficitaire, à peu près 1,3 milliard en 2022, on va être au-dessus en 2023, et n'a jamais eu autant de problèmes pour faire tourner ses services. Donc on voit bien que ce qu'on appelle le virage ambulatoire hospitalier, encore une fois, qui est le sens de l'histoire. Soit vous vous adaptez, soit vous vous affaiblissez, c'est darwinien. On voit bien que ce virage ambulatoire n'a pas été bien appréhendé par la classe politique, par l'institution hospitalière, probablement aussi par les économistes qui n'ont pas dû être bons pour expliquer ce phénomène-là. Et donc, on n'a pas adapté l'hôpital public. Je vous prends un exemple. L'hôpital Nord, qui est en cours de construction, qui fait la fierté du ministère de la Santé, qui va ouvrir avec plus de 1000 lits, ou à peu près 1000 lits, qui va remplacer deux hôpitaux, Beaujon et Bichat. On revient...
Paris, oui.
À Paris, ça va être un hôpital cathédral comme au XXe siècle. Et c'est juste l'inverse qu'il faut. L'hôpital public a besoin d'une réorganisation architecturale, d'une réorganisation de ses métiers, mais avec l'hôpital de demain, c'est-à-dire des hôpitaux qui seront des entités modulaires beaucoup plus flexibles, beaucoup plus proches de l'activité de ville. Il faut arrêter cette vision d'hôpital cathédral. L'hôpital Georges Pompidou aurait dû être le dernier hôpital de cette ère-là. Mais comme il n'y a pas de pensée stratégique, mais parce qu'il y a des blocages, tout ça est multifactoriel, je jette la pierre évidemment à personne, il y a une responsabilité collective, mais on pense que garder l'hôpital public dans le formol parce qu'il a eu un aura extraordinaire, c'est la meilleure façon de le faire basculer dans le 21e siècle et de le conserver fort. Mais c'est exactement l'inverse, parce qu'il y a une innovation technologique, entre autres, qui pousse à repenser l'organisation des hôpitaux. Et le privé le fait, parce que le privé est condamné à le faire, puisque sinon il disparaît. Mmh. Et donc on voit bien qu'il y a un risque, et il y a d'ailleurs une part de marché, on s'étonne parce que l'hôpital public a moins de patients, année après année, il y a une baisse. Mais les patients ne vont pas aller à l'hôpital public pour sauver l'hôpital public et rester plus longtemps alors qu'ils pourraient ne pas passer de nuit ou passer moins de nuit.
Vous dites qu'il y a moins de patients dans les hôpitaux publics ?
Oui, il y a une baisse de l'activité à l'hôpital public. On a à peine retrouvé l'activité.
Parce que les urgences sont toujours complètes en revanche.
Alors ça c'est un autre point, mais on ne peut pas tout mélanger si je peux me permettre. Vous avez raison
Allez-y, faites le tri pour nous.
Voilà, non mais vous avez raison de mentionner le problème des urgences, parce que aux urgences, on voit qu'il y a ce qu'on appelle un problème de lit d'aval, c'est-à-dire de disponibilité de lits, et donc on peut se dire, mais donc il manque de lits. Je vous ai expliqué qu'en fait, la baisse du nombre de lits était le sens de l'histoire. Mais ce qui est vrai, c'est que la répartition des lits entre les services et l'anticipation du besoin de lits, notamment pour le service des urgences, fait défaut. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un manque de lits dans l'absolu. Donc vous voyez qu'il faut repenser aussi...
C'est qu'il y a des services qui sont trop bien pourvus, si je puis dire, et d'autres pas assez.
Ben, il y a tout à fait, enfin, pas rentrer dans le détail, mais 50% des lits, c'est le court séjour, c'est ce qu'on appelle la médecine, la chirurgie, l'obstétrique. C'est là où il y a une baisse drastique du nombre de lits, juste pour vous donner. Mais donc, qui doit être compensée par la hausse du nombre de places, ce qu'on a expliqué au début de l'interview. C'est-à-dire que vous avez besoin de moins de places que de lits parce que vous avez une rotation qui est de l'ordre de 2 par jour. C'est-à-dire que vous pouvez être 2 patients sur une même place par jour. Évidemment, vous ne pouvez pas être 2 patients dans un lit d'hospitalisation complète. Donc, mais si vous regardez 2023, ce qui est assez parlant, c'est que près de 70% de la suppression des lits d'hospitalisation partielle est dans le public, mais seulement 38% de la création de places est dans le public. C'est-à-dire que dans le public, on détruit les lits, mais on ne crée pas assez de places. Et c'est là où on perd une capacité hospitalière. Mais c'est au-delà de simplement la capacité hospitalière. Il faut réorganiser les métiers. Il ne faut pas prendre ce virage ambulatoire comme une menace, comme on le fait, comme une menace aux emplois, comme une menace à la force de l'hôpital public. Non, non, c'est le sens de l'histoire, mais il faut s'adapter, il faut adapter les métiers, et donc il faut investir. Parce que là où on peut être inquiet pour l'hôpital public, c'est qu'on a une baisse de l'investissement parce qu'il y a une chute, il y a une hausse du déficit, et on connaît l'état des comptes publics, et donc ça demande de l'investissement. ça demande de la formation auprès des ressources humaines et il est urgent, je pense que ça sera mon message de fin, de lancer un message au pouvoir public et à l'institution hospitalière, de lancer un grand plan de transformation, pas simplement d'augmentation des dépenses de l'hôpital public pour faire de ce virage ambulatoire une chance aussi pour l'institution hospitalière publique.
Message bien reçu et bien compris. Merci beaucoup Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ESCP Business School, président de l'Institut Santé et votre ouvrage Les itinérants de la santé, quel futur pour notre système de santé aux éditions Michalon.